Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Taylor. Je suis votre chef de cabine au nom de notre commandant de bord qui est ce soir Daniel Mesquich. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages dans Prague, Pékin, Marseille, New York et Alger. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints et ce jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher et ajuster votre imagination, redresser votre curiosité et en vue de notre décollage immédiat, préparez-vous à vivre quelques maelstroms de l'autre côté du houblot, voire du miroir. Ladies and gentlemen, my name is Alex Taylor, and this is the beginning of... Voyageons, moi majeur, ravi de vous retrouver une toute dernière fois ce dimanche soir. Je suis très content d'avoir comme dernier invité Daniel Mesquich, quelqu'un qu'on ne présente vraiment pas. Je suis toujours très inquiet de mes présentations, de savoir si je choisis le bon descriptif, etc. Ben, comme tout le monde vous connaît, donc on peut s'en passer. Vous savez que j'ai appris quelque chose avec vous, justement par rapport à ce mot que j'ai utilisé dans le lancement, Maelstrom, Hamlet, moi-même britannique, je ne savais pas que Hamlet, ça veut dire Maelstrom.
On dit que ça signifie Maelstrom en ancien scandinave.
C'est ce que j'ai lu, oui, voilà. Je ne savais pas trop ce que c'était l'ancien scandinave.
Ça signifie en fait trou dans la mer, tourbillon dans la mer.
D'où vient votre passion? Parce que vous avez non seulement joué, mis en scène, mais vous avez aussi traduit Shakespeare. D'où ça vient? C'est le Britannique qui vous pose cette question, mais c'est toujours fascinant.
Ça vient de ce que je le tiens pour le plus grand écrivain du monde, de très très loin. Quel que soit le second, il vient bien après. D'une part, alors bon, je n'ai pas répondu à votre question parce qu'il faudrait des heures pour y répondre, mais je pense que la moindre phrase de Shakespeare, même quand il a l'air de n'écrire que des péripéties, et même quand il ne fait qu'adapter des pièces existantes auparavant, en réalité, il s'arrange toujours pour en faire un vertige, pour faire qu'il y ait de quoi penser et gloser à l'infini. Et c'est exceptionnel. Je crois que c'est le seul exemple que je connaisse.
Est-ce que c'est facile de traduire Shakespeare en français? Parce que la différence, j'ai souvent remarqué quand j'ai vu des pièces de Shakespeare en français, le français est relativement moderne. Tandis que pour moi, qui suis anglophone, quand je vois Shakespeare en anglais, il faut vraiment s'accrocher pour comprendre. C'est la distance entre l'anglais de Shakespeare et cinq siècles après l'anglais que nous parlons aujourd'hui est beaucoup plus vaste qu'entre, par exemple, je sais que c'est plus tard, Racine, mais c'est pas la même chose. Donc ça donne une poésie un peu différente.
Mais vous avez raison, et j'ai essayé, non pas d'écrire une traduction française en vieux français, en ancien français.
Vous avez traduit quelle pièce?
Hamlet. Enfin, j'ai traduit Hamlet, j'ai traduit Antoine et Cléopâtre, ouais, et Titus Andronicus. Mais parlons d'Hamlet. Hamlet, j'ai vraiment essayé de faire une traduction, non pas en ancien français rigoureux, ce serait vraiment très 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 long et très difficile, mais en ancien français fantaisiste. C'est-à-dire que, même si scientifiquement ce n'est pas tout à fait vrai, si historiquement ce n'est pas tout à fait vrai, malgré tout, il y avait le souci de l'archaïsme. Et puis je jouais avec les dates. C'est-à-dire que les Anglais, vous avez raison de le rappeler, ont un texte ancien à entendre. Les Français, souvent, ont un texte à se mettre sous les oreilles qui date au mieux du 19e siècle et au pire d'il y a quelques années. Et c'est toujours un peu le même genre de français, un peu académique, un peu vieillot, avec deux, trois messires dedans pour faire médiéval. Mais enfin, c'est toujours un français de carton-pâte, 9 fois sur 10 en tout cas. Il y a des traducteurs formidables, bien entendu, mais 9 fois sur 10. Et ce que j'ai voulu faire, c'était qu'on entende la langue anglaise, qui n'est pas tout à fait l'anglais d'ailleurs, hein, qui est pas l'anglais aujourd'hui en tout cas, qui est un saxon anglicisé avec beaucoup d'anciens français déjà, car le français de Montaigne était sous l'anglais de Shakespeare. Donc la traduction, ça devient compliqué de traduire du français qui est passé en anglais en français. Hein, vous voyez. Et puis il y a du scandinave, enfin il y a beaucoup de choses, il y a du latin, il y a énormément de latin aussi, enfin en tout cas de Languedoc. Voilà, et j'ai essayé de faire qu'on entende le voyage, puisque c'est le thème de notre conversation, le voyage de la langue, c'est-à-dire non seulement de l'île britannique aux côtes françaises, mais aussi à travers les siècles. Qu'on entende. Alors, de temps en temps, il y avait des phrases qui sonnaient un peu 18e, de temps en temps un peu 19e, de temps en temps un peu 20e, de temps en temps carrément médiéval, enfin voilà.
Donc, l'interprète peut souvent aller un peu plus loin et apporter des couleurs et des choses que l'auteur original n'a pas. Je vous recommande Le Roi Lear. Une fois, je suis tombé dessus dans un hôtel, je ne sais pas du tout où j'étais, et je zappais, je tombe sur Le Roi Lear en russe. C'est magnifique.
Je le connais.
Ah oui.
Je le connais.
C'est encore
très
plus
beau.
Magnifique
très
en anglais. Je pense, je ne comprends rien du tout en russe. Mais
c'est une belle mise en scène, voilà. En tout cas. Un petit peu naïve, mais malgré tout magnifique. Oui, oui.
Alors, vous allez voyager avec nous. Vous avez choisi comme toute première musique une chanson, eh bien, ma foi, très thématique.
J'ai voyagé de Brest à Besançon, depuis La Rochelle jusqu'en Avignon, de Nantes jusqu'à Monaco, en passant par Metz et Saint-Malo. J'ai vendu des marrons à la foire de Dijon et la baba papa. Emmène-moi, mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Emmène-moi, je ne veux plus voyager. J'ai dormi toute une nuit dans un abreuvoir, j'ai attrapé la grippe et des idées noires. J'ai eu mal aux dents et la rougeole, j'ai attrapé des rhumes et des petites bestioles qui piquent, sans parler de toutes les fois que j'ai coupé mes doigts sur une boîte à sardines. Emmène-moi, mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Emmène-moi, je ne veux plus voyager. Je les vois tous les deux comme si c'était hier, au coucher du soleil, maman mettant le couvert, et mon vieux papa avec sa cuillère remplissant son assiette de pommes de terre bien cuites. Et les dimanches, maman coupant une tranche de tarte aux pommes.
Graham Allwright, emmène-moi. Vous avez mal aux pieds vous-même? C'est la raison de ce choix? Vous voyagez trop?
Non, je ne voyage pas trop. J'adore voyager, réellement. Souvent, je n'aime pas partir, mais j'adore arriver. Et j'adore revenir.
Je suis comme vous, moi j'ai horreur de faire des bagages. Je suis toujours un peu angoissé à l'idée de partir de mon chez-moi. Mais une fois que je suis parti...
Voilà, c'est ça. Parce que pour moi, ce n'est jamais le moment. Chaque fois, je me dis, oh non, j'aurais pas dû accepter ce voyage à ce moment-là. Ce n'était pas le moment. Plus tard, peut-être, mais pas maintenant. Et puis, une fois que j'arrive quelque part, j'adore arriver. J'adore ne pas m'y reconnaître, voir comment ça marche, les choses. Et parfois même avec des difficultés. Vous savez, parfois, il y a des dysfonctionnements. Il n'y a personne à l'aéroport.
Genre...
je ne sais pas, vous arrivez dans un pays dont vous ne comprenez pas la langue et où même ce qui est écrit n'est pas votre alphabet, et puis il n'y a personne pour vous accueillir.
Budapest, c'est pas mal. Budapest, complètement coupé de son repère linguistique. Ça n'a rien à voir avec les autres langues. Autour.
C'est vrai. Mais enfin, on reconnaît le A, le B, le C, etc. Alors que quand vous arrivez en Russie ou en Chine, là, c'est encore plus compliqué. Et alors, il y a parfois des dysfonctionnements comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Et puis ne pas reconnaître les mêmes choses. C'est-à-dire que ce qui paraît luxueux dans tel pays ne l'est pas dans tel autre, et vice-versa. Enfin, mille choses comme ça qui... Et tout le reste, bien sûr, la culture, l'art. Mais déjà, la vie quotidienne.
Vous êtes plutôt hôtel de luxe ou hôtel très peu cher, Daniel Meskich, ou les deux?
Je mentirais si je disais que je n'aimais pas les hôtels de luxe. Bon, j'aime les hôtels de luxe, bien sûr.
Mais vous êtes content dans un petit boui-boui?
Mais je peux être très heureux dans un petit boui-boui. Il y a un hôtel, par exemple, je ne sais pas si je brûle les étapes en vous disant ça, mais il y a un hôtel que je connais à Marseille, par exemple, où je vais parfois, même souvent, presque chaque fois, avec ma compagne, et qui est un hôtel qui n'a aucun intérêt, si ce n'est que son balcon donne sur la plage des Catalans, où j'allais quand j'étais petit. Et alors, je l'adore. Et pour moi, c'est le meilleur hôtel de Marseille, alors qu'il existe d'autres hôtels beaucoup plus luxueux à Marseille. Mais c'est là que je veux aller absolument chaque fois. Donc, je suis heureux dans les deux. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des cafards dans le matelas, quoi. Mais oui, je me contente de peu aussi.
Vous avez brûlé un peu les étapes, c'est vrai, parce que votre première destination, c'est Alger, parce qu'évidemment, c'est votre ville de naissance. Alors, faisons machine arrière. Peut-être avec la musique d'abord, c'est Enrico Macias.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent. Bien après mon adieu, soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux. Ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret.
Adieu mon pays, Enrico Macias. Je l'ai hispanisé un tout petit peu, Macias, mais j'ai pas trop mal fait parce que en fait.
Mais non, parce que il est de Constantine, mais donc c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Non, c'est pas de l'Espagne, et surtout, ça n'est même pas en face de l'Espagne. Mais je pense que ça fait partie de ces juifs d'Algérie, ce nom-là, qui aiment bien se s'hispaniser. Enfin voilà, donc c'est très bien. Macias, il faut le dire à l'espagnol, sans doute.
L'Alger, pour vous, c'est votre première destination, donc... Vous l'avez quitté à quel âge?
À l'âge de 10 ans. Donc toute mon enfance, ce qui m'a constitué, c'est algérois, enfin vraiment. Moi, c'est une ville que j'adore, j'y vais de temps en temps.
Vous êtes retourné l'année dernière?
J'y suis retourné l'année dernière et ma compagne m'avait fait une surprise magnifique. C'est que pour mon anniversaire, elle m'avait emmené dans la clinique où je suis né, à Alger, qui est toujours une clinique.
C'est une surprise.
C'était une vraie surprise. Et je suis monté, nous avons mangé le gâteau d'anniversaire avec les infirmières qui nous avaient laissé à l'endroit même où ma maman attendait sans doute pour passer. Voilà. C'était un moment formidable. Exactement, je ne vous dirai pas mon âge, mais, mais exactement tant d'années après, j'étais au même endroit à Alger. Non, j'adore cette ville. C'est une ville sublime, pas simplement parce que j'y suis né. C'est une ville exceptionnelle, vraiment. Qui a beaucoup changé, bien entendu. Oui, alors je la reconnais sans la reconnaître, bien sûr. Vous savez, c'est très étrange d'être dans un pays dont on se dit « il me faut un passeport pour y aller », enfin, il me faut même un visa, alors que c'est chez moi. C'est une drôle d'impression.
Vous devez avoir le même rapport avec l'Algérie que moi j'ai avec la Grande-Bretagne. Moi, j'ai quitté il y a 33 ans et quand j'y retourne maintenant, c'est chez moi, mais je n'ai plus de racines là-bas. Vous êtes un déraciné, vous ?
Je ne sais pas si j'ai jamais été un raciné, alors je ne peux pas être un déraciné. Mais je pense que oui, enfin, puis l'Algérie, c'est encore plus compliqué que la Grande-Bretagne pour vous, je crois, parce que pendant longtemps, on ne pouvait plus y aller non plus. Hein. Quand on était parti en 62, c'était impossible d'y retourner pour mille raisons, aussi bien parfois politiques réellement et militaires que psychologiques en tout cas. Et donc pendant 17 ans, je n'y suis plus allé. Et puis un jour où j'y étais, si j'ai le temps de vous raconter cette anecdote... Je prenais des photos pour ma mère, qui était encore vivante à l'époque, et je prenais des photos, je faisais un petit reportage des endroits dont je savais que nous les avions connus et que je reconnaissais. Et puis, à un moment, je prends la photo du balcon de la maison de mon cousin, et il y avait sur le balcon deux personnes en kaki, barbues, très, très solides, visiblement des militaires purs et durs, qui, à peine voit-il que nous prenons des photos, mon épouse et moi à l'époque, disparaissent du balcon. Et j'entraîne mon épouse dans la foule en lui disant « Écoute, j'aimerais bien qu'il ne nous rattrape pas. Et donc, partons vite, mais pas trop vite, parce que si jamais il nous rattrape et qu'on est en train de courir, évidemment, on est très suspect. » Il nous rattrape, effectivement, dans le marché. Je sens une poigne comme ça sur mon épaule. Et l'un des gars me dit en anglais d'abord, je lui dis que je suis français, donc en arabe d'abord, puis en anglais, et enfin en français, il me dit « Vous venez de prendre des photos du Front de Libération de la Palestine, pourquoi ?» Et je réalise que je suis un juif qui vient de prendre des photos du Front de Libération de la Palestine dans un pays arabe. Je suis un espionniste, forcément, du coup. Et donc, je commence à être un peu terrifié. Ma mère m'avait dit, se souvenant des attentats en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, « N'y va pas ». J'avais dit « Maman, c'est fini, la guerre, écoute, laisse-moi ». Et je me disais « Elle avait peut-être raison, je vais peut-être mourir maintenant, enfin, torturé ». Et mon épouse, qui, elle, n'avait pas vécu tout ça à l'époque, donc, me disait « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays? On ne peut pas prendre des photos ?» Elle réagissait en parisienne à qui on met une contredanse, enfin, à qui on met un PV. Et donc, elle n'était pas contente et elle râlait. Et je lui disais « Chérie, laisse, les messieurs nous invitent à prendre un thé, c'est normal. Enfin, » Et on montait les escaliers comme ça et je voyais des photos d'enfants sous les décombres et tout. Et je me disais « C'est fini, je vais mourir. » Et puis, j'ai appelé quelqu'un. Qui m'a sauvé, enfin qui leur a parlé. Et à peine avait-il parlé avec cette personne qu'il a raccroché, il nous a rendu les passeports, l'appareil photo, nous pouvait y aller, au revoir, à bientôt, enfin. Et je rappelle donc un peu plus tard, depuis un autre endroit, la personne que j'avais appelée en lui disant « Qu'est-ce que tu as pu leur dire pour que ça marche comme ça, pour qu'on me libère tout de suite ?» Et il m'a dit ben, « Je leur ai dit en arabe, ils sont comme toi, ils ont perdu leur terre et ils sont revenus la voir. »
Scène 4. Frédéric apparaît sur la porte de la bergerie, pâle, en désordre, de la paille dans les cheveux.
Mais qu'est-ce que tu fais là ?
Rien.
Tu n'as donc pas entendu ta mère qui t'appelait ?
Si, mais je n'ai pas voulu répondre. Ces femmes m'ennuient. Qu'est-ce qu'elles ont donc à mes pieds toujours comme ça ? Je veux qu'on me laisse, je veux être seule.
Tu as tort. La solitude n'est pas bonne pour ce que tu as.
Ce que j'ai ? Mais je n'ai rien.
Si tu n'as rien, pourquoi passes-tu toutes les nuits à pleurer, à te lamenter ? Et tu sais bien que je suis un petit peu sorcier.
Eh bien oui, c'est vrai. Je suis malade, je souffre. Quand je suis seul, je pleure et je crie. Tout à l'heure, là-dedans, je cachais ma tête dans la paille pour qu'on ne m'entendît pas. Berger, je t'en conjure, puisque tu es sorcier, fais-moi manger une herbe, quelque chose qui m'enlève ce que j'ai là et qui me fait tant de mal.
Et il faut travailler, mon enfant.
Travailler. Depuis 8 jours, j'ai abattu la besogne de 10 journaliers. Je m'écrase, je m'exténue, rien n'y fait.
Alors, marie-toi vite. C'est un bon oreiller pour dormir que le cœur d'une honnête femme.
Il n'y a pas d'honnête femme. Non, non, cela ne vaut rien encore. Il vaut mieux que je m'en aille. C'est le meilleur de tout.
Ah oui, le voyage, c'est bon aussi. Tiens, dans quelques jours, je vais partir dans la montagne. Viens avec moi. Tu verras comme on est bien là-haut. C'est plein de sources qui chantent. Et puis des fleurs grandes comme des arbres. Et des planètes.
Ce n'est pas assez loin.
Des planètes et le voyage, c'est vous.
C'est moi qui fais toutes les voix.
L'Indésienne, oui, toutes les voix.
Toutes les voix de
tous les personnages. C'est quand même un exploit.
Oui, enfin, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup faire des voix différentes.
Vous l'avez fait
parler
comment,
comme ça,
ça.
Ou alors parler comme ça, et voilà, avec l'accent.
Et avec des accents différents aussi. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Mais Jean-Claude Malgoire, qui est le chef d'orchestre de cet ouvrage, est un type d'abord délicieux.
L'Arlésienne de
L'Arlésienne de Bizet. Et est un homme d'abord délicieux, un puits de culture, un jouisseur de la vie, enfin quelqu'un de magnifique, mais d'autre part un grand chef. Et il a redécouvert une manière de faire, notamment avec la pièce entière. Et je trouve que ça change tout. C'est vraiment de la musique qui s'accroche au théâtre et non pas de la musique tout court comme on fait parfois, quoi.
Alors, Marseille, c'était votre deuxième escale, Daniel Mesquiche, parce que c'est votre ville.
Écoutez, je vous ai parlé d'Alger tout à l'heure, mais je me sens presque aussi marseillais, peut-être aussi marseillais, d'ailleurs pourquoi presque, qu'algérois. Marseille a été la ville, autant Alger a été la ville de mon enfance, j'en suis parti quand j'avais 10 ans, autant Marseille a été la ville de mon adolescence.
Quel était votre premier souvenir quand vous avez vu cette ville ?
À Marseille ? Ah, mais je suis arrivé à un moment où il faisait très froid. C'est très rare à Marseille, mais il y avait un Mistral de tous les diables. Et c'était un des hivers les plus rigoureux historiquement. Enfin, on avait dit, mais jamais il a fait aussi froid. Et donc, je me disais, c'est un pays glacial. Et c'est une idée absolument contraire à tout ce que j'ai pu penser depuis à Marseille. Non, la première chose, c'était sans doute que c'était pas si hospitalier que ça. C'était pas forcément une bonne impression en arrivant. Vous savez, quand les Français d'Algérie sont arrivés en France en général et à Marseille, donc en particulier, c'était pas si agréable que ça. Nous étions chassés, nous nous sentions chassés en tout cas. Sans argent, sans ressources.
Vous étiez logé où ?
Alors justement, on a été logé d'abord chez ma grand-mère, ensuite chez un oncle, ensuite on a eu une petite maison un peu sordide à nous. Enfin voilà, sinon c'était pas si bien que ça. Mais c'était l'endroit où tout s'est fait pour moi, où j'ai commencé à lire des auteurs, où j'ai commencé à m'émanciper, à sortir seul sans mon papa et ma maman, parce qu'on tout d'un coup on avait le droit de se promener dans la rue, il n'y avait pas la guerre, enfin, alors qu'à Alger on était couvés, bien sûr. Et puis même les filles, enfin tout a commencé là, la philosophie, la politique aussi, j'ai commencé à faire de la politique à Marseille de manière très active quand j'étais au lycée. Mille choses ont été formatrices.
Qu'est-ce qui vous manque de cette ville quand vous n'y êtes pas?
Quelque chose de bon enfant d'abord, d'heureux. Je sais bien qu'on entend parfois aux informations qu'un tel a dégommé quelqu'un sur les marches de telle ou telle place publique.
Vous dites ça en rigolant?
Non, je dis ça en rigolant parce que bon, ça n'est pas drôle en soi, bien entendu, mais le banditisme marseillais, c'est vrai, mais c'est quand même minoritaire. Marseille est une ville de folie, de liberté, de poésie, de violence, c'est vrai, mais de violence, oui, poétique, enfin. Ça n'est pas une violence fermée, ça n'est pas froid, ça n'est pas calculé. C'est parce qu'on tout d'un coup, on s'énerve, on se pousse. Par exemple, quand il y a une bagarre à Marseille, avant de donner un coup de poing à quelqu'un, il y a des bagarres à Marseille, mais avant de donner un coup de poing à quelqu'un, on se pousse pendant à peu près une demi-heure. On se pousse comme ça, les mains sur la poitrine de l'autre. Voilà, et on s'engueule, et on dit « Oh, je te déteste !» Voilà, et je trouve que c'est fort. Quitte les lunettes, hein, quitte les lunettes hein, avant de se frapper. Je trouve ça sublime, quoi. Moi, je trouve
c'est une vie
génial.
Qui change beaucoup, surtout en ce moment. Hein. J'étais dans le Mucem il y a quelques semaines. Donc déjà, physiquement, ça change.
Bien
c'est
sûr.
En train de s'embourgeoiser un tout petit peu, non, avec la liaison de TGV.
Oui, sans doute.
Parce que enfin, ça perd un peu son...
Oui, sans doute, mais vous savez, chaque fois on dit ça d'une ville, et puis petit à petit, de nouveau, elle reprend sa force et sa verdeur et son authenticité. Il y a toujours un moment où la chose semble artificielle, mais Marseille restera Marseille, quoi qu'on fasse sur le Vieux-Port.
Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Le jour se lève sur Sing Sing, par contre on s'inquiète pour le temps qui reste à tirer à Sing Sing, y a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui mais pas derrière des barreaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson dure un peu trop. Quand le jour se lève sur Sing Sing, et que c'est le dimanche qu'on attend, on va voir l'orchestre de Sing Sing, il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dans le sang, sur la chaise il fit trois petits sauts. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Ouais! Quand la nuit tombe sur Sing Sing, on revoit nos amours dans le temps. On se dit qu'on sortira de Sing Sing quand nos poules n'auront plus de dents. Pense-t-elle encore à nous en ce moment, ou font-elles brûler nos photos? Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing, jusqu'à demain, évidemment.
Voyage en moi majeur, vous écoutez ce dimanche soir avec notre commandant de bord, Daniel Mesquiche. Là, c'était Claude Nougaro, Sing Sing Song. New York, c'est votre escale suivante. Je vais vous poser la même question que pour Marseille. Votre première impression de New York?
Alors, je crois que j'ai eu la même impression que celle de Céline. Vous savez, Céline, quand il est arrivé à New York, a dit « Mais c'est une ville debout, cette ville est debout !» Eh bien, je pense que j'ai pensé exactement la même chose. Je n'avais jamais vu autant de gratte-ciel en même temps.
C'est émouvant, non? Vous avez pris le Staten Island Ferry, parce que quand on se retourne tout d'un coup, et on voit tout ça.
C'est magnifique. C'est une ville où je me sens bien. Et pourtant, Dieu sait qu'elle n'est pas semblable à ce que je connais. Ce n'est pas semblable à Paris. Paris est la ville où je vis, et ça ne ressemble pas. Mais, enfin, il y a des endroits qui ressemblent. Le Broadway, enfin. Mais autrement, ça ne ressemble pas. Mais, malgré tout, je me sens bien. Je me sens chez moi. C'est comme si j'avais été américain dans une vie antérieure. Enfin, je trouve que c'est normal. Et il y a aussi quelque chose d'étrange. C'est que les buildings sont tels que, par moments, on est en plein soleil, quand il fait beau, quand il y a du soleil, mais on est en plein soleil, et tout de suite après, on rentre, et c'est la nuit. On est entre deux grands gratte-ciels comme ça. Voilà. Et puis, les gratte-ciels sont des œuvres d'art. Ça aussi, c'est une chose. Nous, en France, quand on a un très haut building, eh bien, ma foi, c'est parce que c'est très grand, et puis c'est tout. Voilà. Et les œuvres d'art sont plutôt anciennes, elles sont du 18e, du 19e. Voilà. Là, non, là, tout est moderne, et c'est de l'art immédiatement. Et ça se voit comme étant de l'art. Même la banque la plus pragmatique, enfin la plus matérialiste, est une œuvre d'art. Je trouve ça magnifique.
Vous faites des masterclass, des cours de pédagogie théâtrale, j'ai lu à Harvard un peu partout. Est-ce que c'est facile d'enseigner aux Américains la manière française de jouer, parce que c'est tout de même assez différent, j'imagine, non ? Qu'est-ce que vous pouvez leur enseigner, d'ailleurs ?
Je crois qu'il y a des associations d'idées ou une façon de faire, ou parfois même une sémiologie, enfin une façon de dire attention, si vous faites ça, ça voudra dire ça, et si vous faites ci, ça voudra dire ci, qu'ils découvrent, qu'ils ne connaissent pas.
Mais un masterclass avec vous, par exemple, à Harvard, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ?
Non, je travaille des scènes, hein, comme je fais en France, en réalité. Si ce n'est que je leur explique pourquoi, j'explique comment, je dis la raison pour laquelle je dis telle chose. Alors ils trouvent ça, dans un premier temps, un peu intellectuel, pas assez en studio, enfin pas assez à l'intérieur, enfin, et Dieu sait que je suis très loin, je le sais, de tout ce coaching américain, anglo-saxon en général, mais américain en particulier, qui consiste à dire qu'est-ce qu'il a mangé à 4 heures de l'après-midi, et voilà pourquoi il dira ça, et il sera en colère pour ci, etc. Et d'ailleurs, c'est un soldat, donc il réagit comme ci et comme ça, etc. Au lieu de dire ce genre de choses, je fais de la poésie d'une certaine manière, enfin, j'ouvre, je connecte, je dis, ça rappelle telle chose, on pourrait faire ça. Et si on faisait ça, enfin, et ils se disent, mais quoi, c'est ludique, on peut inventer comme ça. Et ça suffit pour qu'il se passe quelque chose, oui.
Je peux vous poser une question complètement idiote, mais qui me vient à l'esprit comme ça. Vous avez une personnalité tellement forte, on se demande à quel moment et surtout pourquoi vous êtes mis dans la peau d'autres personnes avec votre métier d'acteur. D'abord, ça c'est venu d'où ?
Écoutez, je ne sais pas. Je pense que quand j'étais jeune, j'avais au-dessus de mon lit deux posters, un de Gérard Philippe et un de Karl Marx. À l'époque, j'étais gauchiste, comme tous les ados, ou presque tous les ados de cette époque-là. Et je me demandais si j'allais être philosophe pratique, enfin philosophe dans la vie, c'est-à-dire donc politique d'une certaine manière, mais philosophe, ou si j'allais être acteur. Et j'ai choisi acteur parce que je me suis dit qu'au fond, le philosophe, il disait sa vérité, sinon la vérité du moins la sienne, mais qu'il n'en bougeait pas. Et la vérité, c'est la vérité, on ne va pas dire deux choses contradictoires. Alors qu'un acteur, ça pouvait se promener. Et qu'au fond, c'était peut-être plus noble d'être du côté de Gérard Philippe que du côté de Karl Marx, parce que ça permettait de se promener, de dire « je suis là, mais je ne fais que me prêter, je m'amuse, chercher ailleurs, si vous voulez me cerner, etc. etc. » Bon, tout ça est évidemment trop vite dit et de manière sans doute un peu jeune, un peu simple. Mais ça n'empêche pas que je pense aujourd'hui encore qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Alors, je ne sais pas répondre à votre question, je ne sais pas si j'ai une telle personnalité que ce n'était pas la peine d'eux, etc. etc. Mais je crois que j'aime l'idée qu'on joue à ça, mais ce n'est pas sûr que ce soit vrai. Ce n'est pas forcément ça la vérité. La vérité, nous l'indiquons, mais nous ne la disons pas, nous ne la donnons pas. Ni la vérité en soi, évidemment, ni même ma vérité. Voilà, je dis ça aujourd'hui, demain je dirai autre chose, enfin, puisque je suis artiste, vous voyez.
Est-ce que vous qui voyagez tellement, qui mettez en scène des opéras, par exemple, en Chine, est-ce que les publics, c'est très différent selon les endroits ? Est-ce que les publics, c'est très différent d'un soir à l'autre ? Ou est-ce qu'un public américain, c'est forcément très différent d'un public chinois ?
Alors, le public est très différent, bien sûr. Moi, je me souviens, par exemple, d'une fois, c'était au Mexique, c'était pas en Chine, mais peu importe, à Puebla, je me souviens très bien, où nous avions joué un spectacle avec quelques phrases en espagnol et puis le reste en français. On m'avait dit que ça poserait pas de problème. Et au bout de 5 minutes, à peu près, deux personnes se sont levées, sont sorties. Puis, au bout de 10 minutes, une vingtaine. Puis, quelques minutes plus tard, une cinquantaine. Et les gens sortaient. Et je me disais, mais c'est une horreur, c'est le plus grand bide que j'ai jamais vécu dans ma vie. Et puis, petit à petit, ils sont revenus avec des pop-corn, avec du Coca-Cola, avec des... Voilà. Et puis ils parlaient, et puis ils ressortaient. Enfin, et à la fin, nous avons eu un triomphe. Et les gens m'en parlaient même de manière assez intelligente, même s'ils n'avaient pas vu certains morceaux. Donc je me dis que... Alors ça, c'est, évidemment, en France, c'est impensable. En France, c'est une messe laïque, le théâtre.
Mais c'est ce qui se passait pour Shakespeare. C'est sans doute qu'ils mangeaient et parlaient pendant les...
Exactement, c'est ce qui se passait à l'époque. Voilà, donc je me dis que oui, les publics sont différents. Les Chinois, par exemple, rient pour telle ou telle chose, alors qu'en Europe, non, et l'inverse. Mais le public est différent, mais malgré tout, il y a une sorte d'international du théâtre, je ne sais pas comment dire ça, que je retrouve d'ailleurs davantage sur la scène que devant la scène. Parce que les acteurs, même les acteurs les plus différents, j'ai monté des spectacles en Corée, par exemple, à Séoul, ou à Pékin, et donc, à tel moment, je disais à mon assistant, par exemple, « Et là, tu crois qu'ils pourraient s'embrasser ?» Et l'assistant me regarde et me dit « Mais ce serait ridicule !» Et j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas faire ça à Séoul. Mais en même temps, et malgré tout ça, alors que quand je sortais, j'étais dépaysé comme tout, eh bien, sur la scène, dans le théâtre, mais les lois sont les mêmes, les règles sont les mêmes. Et il m'est arrivé même, à Séoul justement, je montais Britannicus de Racine. Donc en coréen, hein, donc je ne comprends pas le coréen, je ne savais pas où on en était, je savais qu'on faisait telle scène, mais je ne savais pas à quel vers on en était. Et à un moment j'arrête et je dis, excusez-moi, il me semble qu'elle n'a pas dit ce vers-là, Agrippine. Et alors tout le monde s'arrête, je me suis fait applaudir, parce qu'effectivement elle avait sauté un vers. Au milieu d'une tirade qui est la tirade la plus longue du répertoire classique, vous savez, elle fait 3 pages, la tirade d'Agrippine. Et j'avais remarqué qu'il manquait un vers. Alors on m'a dit, mais comment l'avez-vous su, puisque vous ne parlez pas coréen ? J'ai dit, je ne sais pas, j'ai vu dans ses yeux qu'elle n'était pas en train de dire ça. Voilà, il y a une internationale du théâtre, et donc pas tant de dépaysement que ça quand même.
Les oiseaux dans la charmille, là, c'était Gian D'Angelo, les contes d'Hoffmann d'Offenbach, bien sûr, que vous avez mis en scène à Pékin.
À l'Opéra de Pékin, avec un chef d'orchestre français, François-Xavier Roud, qui était formidable.
Quelles étaient les contraintes et quelles étaient les joies inattendues ?
Alors, les contraintes, elles étaient très grandes, parce que rien n'est plus fantaisiste que les Chinois, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que ce sont à la fois des grands travailleurs, des gens formidables avec qui j'éprouve un plaisir très grand à travailler vraiment, et puis il y a même des gens qui sont devenus maintenant des amis. Mais d'autre part, c'était encore la fin maoïste et le début d'autre chose, donc on avait un peu...
Sur quelle année ?
Oh, c'était il y a 7-8 ans maintenant. Enfin, non, c'était pas du tout Mao, mais enfin, c'était l'opéra d'État, l'opéra central. Et donc, il y avait encore le fonctionnariat le plus paresseux, pour certains, pour les chœurs, par exemple. Pas les chanteurs, qui étaient tous individuels et qui étaient sublimes, des voix sublimes qu'on n'imagine pas en Occident. Qu'on n'imagine pas.
Pourquoi ?
Parce qu'ils restent en Chine, et voilà. Et moi, quand j'ai fait une audition avec le chef d'orchestre, François-Xavier, et que nous écoutions ça, nous disions, mais il y a des voix. Elles seraient en Europe, ce seraient des grandes stars immenses, à New York, partout.
Savent chanter sans les deux, sortes de musique.
Ah non, qui ne chantent qu'une sorte de musique, qui est la musique occidentale. Ce qu'ils appellent la musique occidentale. À partir de la Russie, c'est occidental pour les Chinois. Autrement, l'opéra traditionnel chinois, le théâtre chinois, comme on dit, là, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre technique, c'est tout à fait... Il y a des gestes qui vont avec, des danses, enfin, c'est très, très complexe, hein, c'est un art en soi.
Il y avait des joies.
Alors, il y avait des joies aussi, c'est la fantaisie, c'est la folie, c'est le bonheur, Et puis les miracles, tout à coup. C'est-à-dire qu'avec rien du tout, tout d'un coup, une chose sublime se fait. Je vous donne un exemple. Je dis au départ, j'aimerais avoir une nuit étoilée. Et dans mon esprit, une nuit étoilée se fait ou avec de la fibre optique pris dans le velours, enfin, ou bien par des petites loupiottes quand on n'a pas beaucoup de sous et on met des petites ampoules comme ça. Et au loin, ça fait les étoiles dans la nuit. Et chaque fois, il me dit, oui, bien sûr, pas de problème, monsieur Mesguich. Et puis, je disais, mais bon, j'aimerais bien la voir, cette nuit étoilée. Et on finit par me la montrer, et on me montre un tissu noir avec des boulons, comme ce qui rentre dans les écrous, vous savez, des boulons, tendus par un fil de pêche, je crois. Et je dis, non, mais vous plaisantez, je parle d'une nuit étoilée, je ne dis pas des boulons suspendus, enfin. Il me dit, mais je vous assure, ça fait tout à fait la nuit. Mais enfin, vous plaisantez ou quoi? Faites-moi un essai. Je voulais leur prouver qu'ils avaient tort. C'était sublime. Et effectivement, des boulons tendus comme ça sur un fil invisible, un fil de pêche, avec juste un peu de flottement normal que fait un boulon quand il est suspendu. C'est jamais totalement immobile. Avec un rasant, et c'était une nuit étoilée, une des plus belles que j'ai jamais vues de ma vie. Voilà, ça c'est la Chine.
Elephant Man de Laurent Petit-Gérard, que vous avez mis en scène à Prague, où ça, dans le...
Au Statny Opera. Statny Opera veut dire opéra de l'État.
De l'État. Et les joies et les contraintes des Tchèques.
Alors très franchement, il y avait plus de contraintes que de joies. Il y a eu des joies parce que le spectacle était magnifique et que j'étais très fier de ce spectacle, que c'est un ouvrage que je trouve sublime qu'a écrit Laurent Petit-Gérard, et parce qu'on a vu un très grand succès. Ça, c'est la joie des représentations. Mais le travail a été très, très pénible, notamment parce que, alors là, pour le coup, je vous disais qu'à Pékin, il y avait parfois quelque chose de fonctionnariat et qui était un peu lourd, mais c'était rien, parce qu'au moins, il y avait de la fantaisie à Pékin, à côté de Prague, où c'était vraiment infernal, insupportable. Donc vraiment pas un si grand souvenir que ça. Sauf que, du travail je veux dire, de la manière de travailler. Sauf que je me promenais dans la ville. Et c'est une ville sublime, Prague.
Est-ce que ce n'est pas une ville qu'on peut faire en 2 heures, contrairement à Budapest? Moi, j'ai fait les deux. Budapest, à mon avis, toute une vie ne suffit pas. Mais Prague, j'avais l'impression qu'en 2 heures, on avait vu le pont Saint-Charles.
Oui, mais parce qu'en 2 heures, on a vu ce que voient les touristes en 2 heures. Non, non, moi, je suis d'accord avec vous. Budapest est une ville sublime, surtout.
Une mélancolie, une tristesse.
Oui, oui, surtout Pest, enfin, surtout la vieille ville. Hein. Bien sûr, et on entre dans une cour comme ça, dans un immeuble qui a l'air un peu délabré, et puis d'un coup, ça devient une vie entière avec des choses en bois. J'adore Budapest. Mais Prague, vous savez ce que disait Kafka? Kafka disait, la petite mer, il l'appelait la petite mer. La petite mer a des griffes. C'est-à-dire que quand on veut s'en aller, on y revient. Et moi, je le ressens. Je suis allé à Prague plusieurs fois dans ma vie, chaque fois pour une raison différente. Et chaque fois, je me dis, c'est la dernière, je n'aurai plus de raison d'aller à Prague. Et hop, j'y retourne. Si ça se trouve, je vous parle en ce moment, et peut-être que dans quelques mois, j'irai à Prague encore. La petite mer a des griffes. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, je pense que c'est une ville sublime. Moi, j'ai un souvenir, par exemple, j'avais tourné dans un film sur Apollinaire. Et Apollinaire avait été à Prague, et on m'avait demandé de jouer le rôle de Kafka, justement, qui causait avec Apollinaire dans une taverne. Et le metteur en scène m'avait demandé, dans le petit cimetière juif de Prague, de me promener, alors j'avais le chapeau melon et le manteau de Kafka, et de me promener, de sauter de tombe en tombe. Et c'était la nuit qu'on faisait ça, dans le petit cimetière du XVIIIe siècle, vous savez. Et je l'ai fait, et il y avait de la fumée. Des machines à fumer, la fausse fumée, mais aussi la fumée qui sortait de nos bouches parce qu'il faisait froid, il y avait de la neige. Et j'avais l'impression d'être dans un autre monde, mais sur une autre planète, vraiment. Voilà, et vous savez, il y a une horloge à l'endroit qui va à l'endroit, une horloge qui va à l'envers, dès qu'on sort de ce cimetière. Et un jour, j'étais une autre fois à Prague et j'ai demandé à un passant, mais pourquoi il y a deux horloges, une qui va à l'endroit et une qui va à l'envers? Et le gars me répond... Mais parce qu'il y a l'heure des vivants et l'heure des morts, monsieur.
Thank you.
Brigitte Enguerrer, Claire de Lune de Debussy, vous avez tenu d'aimer Guichamet, cette musique. Pourquoi ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ma compagne et moi, nous l'écoutons très souvent. Et c'est une musique qu'on met quand on ne sait pas quoi mettre. Quand on rentre à la maison et qu'on est un peu fatigué, hop, on met ça. Bien sûr, à cause de Debussy, bien évidemment. Mais aussi et surtout peut-être à cause de, ou grâce à Brigitte Enguerrer, qui était une femme sublime, une grande artiste, enfin une très grande artiste, une grande pianiste, mais aussi une femme formidable dans la vie. Elle a disparu il y a peu et je me disais que c'était la moindre des choses, puisque il m'arrive très souvent, il m'arrivait d'ailleurs de travailler avec elle, d'être récitant avec elle dans des concerts qu'elle faisait, notamment de la musique romantique. Enfin, je disais du, elle jouait du Liszt et moi je disais du Baudelaire ou du Lamartine. Et je pense que j'aime beaucoup les pianistes d'une manière générale. Hein, c'est-à-dire que je travaille avec Cyril Huvet, avec Jean-Éflam Bavouzet, avec souvent des pianistes. Mais Brigitte, alors je dis ça sans doute parce qu'elle n'est plus là, mais pas que parce qu'elle n'est plus là, bien sûr. Brigitte était pour moi l'exemple même de la femme qui était un peu perdue dans le monde et qui ne vivait que pour la musique. Par exemple, elle jouait. Et elle pleurait, et je vous assure qu'il n'y avait rien de factice dans ça. Les larmes coulaient toutes seules. Elle avait une technique hallucinante, mais sa technique ne l'empêchait pas d'être émue par sa partition, parce qu'elle avait sous les yeux et dans les oreilles. Je trouve que c'était quelqu'un de magnifique. C'est une grande perte pour la musique. Voilà, je voulais qu'on entende ça, simplement.
Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous, quand vous êtes dans votre métier ? Est-ce qu'il y a des rôles qui vous font pleurer sur scène ?
Non. Non, très franchement, je crois que non. Les rôles ne me font pas pleurer, mais je peux être très ému, alors pas jusqu'aux larmes, bien sûr, peut-être par cause d'une défense que j'aurais, mais pas même sans pleurer, malgré tout, je crois que je suis très très ému par quelque chose quand je me rends compte que ça atteint une sorte de quelque chose qui m'apparaît comme une perfection. Tout d'un coup, je me dis, c'est génial. Je lis du Proust, et en lisant Proust, quand tout d'un coup je ressens bien sûr le travail, mais la manière dont tout à coup il glisse de ça à ça, il va chercher une chose qui est ténue, qui est presque rien. Et grâce à la langue, au génie de la langue, à la langue qu'il met en incandescence, enfin en ébullition, quand tout à coup, grâce à la langue, cette chose devient fondamentale, alors qu'elle était rien, un tout petit détail idiot, s'il avait été raconté par quelqu'un dans la rue, n'aurait eu aucun intérêt. Mais tout à coup, la langue portée à ébullition rend cette chose fondamentale, obligatoire. Ça, tout d'un coup, j'ai des larmes qui me viennent, pratiquement. Thank you.
Christian Lobin, Morphing, c'est à l'occasion du projet La Lettre des Sables, parce que je peux vous demander quelle est votre actualité. Il nous reste 3 minutes pour tout dire, Daniel Mesquich, mais là, ça vous tient à cœur.
Ça me tient à cœur, absolument. Alors, l'actualité, c'est que je vais lire, je fais
du
beaucoup
Camus,
de lecteurs comme
aussi.
Ça, du Albert Camus, voilà, pour l'occasion du centenaire de sa naissance. Je vais lire du Baudelaire, enfin, je vais faire des choses comme ça, mais surtout, je vais mettre en scène en avril à l'Opéra de Bordeaux. La Lettre des Sables, c'est le titre d'un ouvrage dont j'écris le livret en ce moment, et dont Christian Lobin, dont nous venons d'entendre un morceau, pas du tout de cet opéra, mais d'un autre ouvrage, Morphing, dont Christian Lobin fait la musique. Ça me tient à cœur parce que c'est une commande de Christian Lobin qui m'avait dit « Est-ce que tu pourrais me faire un livret ?» Et tu ferais la mise en scène, bien sûr, mais comme ça, tu connaîtrais bien les rouages de ce que tu mettrais en scène, si c'est toi qui écris. Un livret sur la machine à remonter le temps. Et je lui dis, ah oui, bien sûr, ça m'intéresse. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Au fond, la machine elle-même ne m'intéressait pas tant que ça. En revanche, le fait de remonter le temps, de changer de temps, me passionne, évidemment. Je suis un lecteur assidu de Borges. Et donc, je lui ai dit oui, et j'ai commencé à travailler. Et nous sommes en train de faire une œuvre que je crois assez belle. Enfin, voilà, c'était juste ça. Qui était la chose pour moi la plus importante aujourd'hui.
Alors, à part votre livre, Ma vie d'artiste aux éditions Écriture, et puis la traduction d'Hamlet, qui est aux éditions Albin Michel, est-ce que vous avez d'autres actualités, des scoops à nous annoncer, et à part vos lectures de Camus ?
Non, je vais faire beaucoup de lectures aussi. Je viens de parler de Borges notamment, au Marathon des mots à Toulouse, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Mais non, j'ai des projets d'écriture surtout, et puis de mise en scène aussi, parce que comme je ne demande pas un troisième mandat de directeur du conservatoire, que je m'arrête à la fin de mon deuxième mandat, je vais pouvoir de nouveau faire l'artiste un peu plus.
Vous êtes un homme libre ?
Je suis plus libre maintenant, oui.
En tout cas, Daniel Mesquich, je suis très très content de vous avoir comme tout dernier invité de cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Mesdames et messieurs, en vue de notre proche atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité. C'est le tout dernier vol de cet avion, sur cet itinéraire, sur ce parcours parfois inattendu, avec ce soir la technique Clotilde Thomas. Le tout assemblé avec une énorme technicité dans les hangars dont lui seul détient les clés. Par notre très souriant et compétent réalisateur Fabien Fleurera. Les places ont été réservées par elle, les repas chauds servis, les invités délicieusement soignés, surtout avec son irremplaçable thé vert, avec notre PNC impeccable et forcément très première classe. J'ai nommé Maude Nourry. Et quant à votre chef de cabine, eh bien c'est son dernier vol dans cet appareil et dans tous les appareils qu'il emprunte depuis 1984. Jour où il a fait son tout premier décollage dans l'émission Télescopage, pilotée par Philippe Meyer, ensuite Éclectique, l'inconnu du 17h31 à Zerti Wiop, d'innombrables chroniques et reportages, revues de presse européennes, matinales de cette même radio où vous nous écoutez, et autres oreilles en coin. Merci infiniment de vos mails, plus que sympathiques, de votre gentillesse et surtout, chose somme toute assez indispensable vu la nature de la relation qui nous relie l'un à l'autre, de vos oreilles. Je m'en vais dans un couloir sombre, la maison de la radio n'en manque pas le dimanche soir, dans un voyage en moi un peu plus mineur, à la quête de mes propres étoiles et à défaut de quelques points de retraite. Ce fut tout simplement merveilleux. Merci beaucoup. À vous, Laurent Valero.